Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marc Touati, économiste, conseiller économique eToro, président d'ACDFI et auteur aussi de best-sellers, je tiens à le préciser, et créateur de la chaîne YouTube Marc Touati TV. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Jean-Étienne, avec plaisir, bonjour à toutes et à tous.
Alors on va directement attaquer, hein, de pas mal de choses à vous demander. Le budget 2026 vient d'être adopté le 2 février après des mois de débats et de motions de censure. Vous avez qualifié, Marc, cela d'arnaque et de honte. Hein. Pouvez-vous expliquer pourquoi et quels en seront les impacts concrets sur les Français cette année ?
D'abord, c'est effectivement une catastrophe pour la France, hein, parce que évidemment, on va encore augmenter les impôts. Alors, le gouvernement a beau dire « Non, mais ça n'augmente pas vraiment, c'est une moindre augmentation. » Oui, ça augmente quand même. Ce sont les chiffres du budget d'ailleurs lui-même qui a été voté. Mm-hmm. À peu près 40 milliards d'euros d'augmentation des dépenses publiques et 40 milliards d'euros d'augmentation des prélèvements obligatoires. Donc, quand on dit que ça n'augmente pas, non, même le gouvernement le dit lui-même. Donc, faut arrêter ces fake news. Et c'est scandaleux dans la mesure où, bien entendu, tout le monde va payer parce qu'on nous dit « Oui, c'est que les 300 grandes entreprises qui vont payer davantage, etc. » Mais vous voyez, c'est ça, moi, qui m'épate, entre guillemets, ouais. Négativement. C'est que c'est un manque de discernement incroyable. Comment peut-on laisser croire aux Français que les 300 grandes entreprises françaises, ça n'aura pas d'impact sur toute la France ? Et encore une fois, que certains députés qui sont marqués politiquement pensent ça, on peut le comprendre, parce qu'ils sont dogmatiques, mais que le Premier ministre, que le ministre de l'Économie, etc., ou même des comptes publics qui va devenir donc président de la Cour des comptes, que tous ces gens-là, voire le président, osent dire ça, non, ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple simple. Hein. Mm-hmm. Les 300 grandes entreprises françaises, ce sont aujourd'hui 8,1 millions de salariés. Donc, ils vont être évidemment concernés parce que s'il y a plus d'impôts pour ces entreprises, donc c'est la deuxième année consécutive, et bien évidemment, ils vont moins embaucher. Dans le même temps, il y a des sous-traitants donc qui vont également souffrir. Donc, toute la France est concernée. Et d'ailleurs, on le voit, on a eu les chiffres de la Banque de France dernièrement sur 2025, on a atteint des records historiques de faillites d'entreprises. Donc, c'est en cela que ce budget est catastrophique, honteux, puis c'est une arnaque, parce que, encore une fois, on voit bien que les députés ont voté finalement pour ce budget ou n'ont pas voté la motion de censure pour garder leur poste. Donc, c'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, les Français souffrent. On a cette augmentation des faillites d'entreprises, on va en parler, je pense, le chômage qui augmente. Mmh, et pendant ce temps-là, les députés, les ministres, le Premier ministre, le Président font tout pour garder leur place. Donc, attendez, il y a un problème. Aujourd'hui, la France souffre et donc on comprend aussi pourquoi il y a une telle distanciation entre les Français et puis les politiques. Les Français n'ont plus du tout confiance dans les politiques et on peut les comprendre quand on voit ce qui se passe tous les jours, malheureusement, à l'Assemblée.
Et selon vos prévisions, Marc, la croissance française en 2026... ne dépassera pas 0,5 à 0,6%, c'est bien en deçà des estimations officielles. Quel facteur explique cette stagnation et comment cela se compare-t-il à la croissance de 0,9% en 2025 ?
Alors voilà, c'est vrai que même si on revient sur la croissance de 0,9% de 2025, on présente ça comme un exploit. Oui. En fait, on a fait 0,9%, la zone euro a fait à peu près 1,4%. Donc on est sous la moyenne, on est dans les pays justement où il y a moins de croissance. Et puis surtout, attention, comment on a obtenu cette croissance avec une explosion du déficit ? Donc un déficit public qui a encore atteint 5,4%, une dette publique qui explose. Donc tous les pays réduisent leur déficit, leur dette, nous on augmente. Donc évidemment, c'est normal qu'il y ait un petit peu de croissance. Et même dans le détail des chiffres, sans entrer trop dans la technique, on a une croissance qui est essentiellement tirée par la formation de stock. Si vous regardez hors stock, on a l'année dernière une croissance de seulement 0,2%. Vous voyez que c'est très très loin du chiffre. Mais maintenant, parlons de 2026, là aussi c'est pareil. Vous voyez, je n'invente rien, je fais juste mon métier. Hein. Quand on regarde les indicateurs avancés, que ce soit des directeurs d'achat ou de l'INSEE, nous avons justement un PIB atone, voire une baisse du PIB, donc de la richesse qu'on crée en France, au cours des prochains trimestres. Donc même à 0,6% de croissance, je suis optimiste. Donc ce qui veut dire, et là c'est mécanique, si j'ai moins de croissance par rapport aux prévisions du gouvernement, ça veut dire plus de chômage qui déjà commence à augmenter fortement, ça veut dire plus de déficit, donc plus de dette, donc le budget qu'on a voté, il est déjà caduque. Vous voyez, c'est ça l'arnaque, c'est que évidemment on vous présente ça comme un exploit, alors que c'est évidemment malheureusement une catastrophe. C'est pas nouveau, ça fait des années que ça dure, mais le drame, c'est que voilà, nous sommes aujourd'hui les seuls parmi les grands pays, hein, notamment en Europe, à faire cette catastrophe économique qui s'aggrave, notamment en termes de déficit. Et puis, ne l'oublions pas, hein, le déficit, qui va le payer à la fin, ce sont les Français. C'est-à-dire que quand vous avez plus
Bien
de déficit,
sûr.
plus de dettes, ben, il y a deux conséquences. C'est que déjà, ben, voilà, on augmente les impôts. Donc, vous voyez, par exemple, on a augmenté l'impôt, la CSG sur les revenus de l'épargne, par exemple, et notamment sur le PER, le plan d'épargne retraite. Vous voyez, une sorte de schizophrénie. On dit aux Français, il faut épargner pour votre retraite dans les plans d'épargne retraite, mais on va taxer davantage. Vous voyez? Donc, c'est quand même une arnaque assez incroyable. D'autant que n'oublions pas, la CSG, c'est un impôt qui a été créé en 1991 par Michel Rocard. À la base, on vous a dit, ça sera 1%, vous inquiétez pas, ça bougera pas trop. Donc, on est aujourd'hui à 9%.
D'accord.
Sur l'épargne, on est à plus de 10%. Si on prend tous les prélèvements sociaux sur les rendements de l'épargne, on est à plus de 17%, même 18%. Enfin, bon, des chiffres complètement fous. Donc, mais c'est ça qui ne colle plus aujourd'hui. Donc, les Français, mais ils sont conscients de tout cela parce que c'est vrai que pendant des années, on a alimenté l'inculture économique. Alors, malheureusement, il manque encore beaucoup de culture économique. Mais je prends l'exemple de la chaîne YouTube. Hein, évidemment, j'ai aujourd'hui presque 270 000 abonnés,
Tout à fait.
alors que je suis vidéos par semaine et que je parle que d'économie, mais bon, je montre ce que je dis au travers de graphiques. Et donc, ça veut dire que les Français s'intéressent. Donc, ça y est, les Français, ils ne sont plus dupes. Ils comprennent aujourd'hui les enjeux et ce qu'ont fait les différents gouvernements, notamment celui-ci, et puis les députés également qui ont laissé passer. C'est très grave. Et je pense que ça veut dire qu'on risque d'avoir ensuite ben, une sorte de révolte hein, des Français qui vont justement voter pour des partis qui vont renverser la table. Donc voilà ce qu'ont fait nos dirigeants pour garder leur poste. Ils sont en train de mettre la France et tous les Français en danger. Et dernier point sur la dette publique, c'est que ça génère également une augmentation des taux d'intérêt. Et ça aussi, les Français la
Ah
paye.
ouais.
Quand les taux d'intérêt augmentent, ce n'est pas que pour l'État, mais c'est aussi pour l'ensemble des Français, les entreprises, les ménages, avec les taux d'intérêt qui augmentent sur leur crédit. Donc, ça casse l'activité économique, donc ça fait du chômage. Donc, voilà le drame dans lequel nous sommes aujourd'hui en France. Et c'est vrai que quand on me dit, oui, mais vous avez dit ça déjà il y a quelques années, c'est vrai, mais voilà, nous y sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est arrivé, on a mis plein de sparadrap, on a voulu masquer effectivement
Bien
la
sûr, tout
réalité.
ça. Ouais.
Un coup de dette publique, mais maintenant, ça y est, on ne peut plus éviter l'inévitable et la vérité sort au grand jour.
Cher Marc, juste une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, hein, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Marc Touati, vous avez alerté sur une hausse du chômage à 8,5%, voire 9% en 2026, avec le rebond inattendu des exportations, hein, avions, pharmacie, défense, malgré la guerre commerciale de Trump. Pensez-vous que cela pourrait inverser la tendance ou, au contraire, aggraver la situation?
Bon, alors justement, alors là, il y a plusieurs questions à la fois. C'est que
Oui.
on a eu déjà, l'année dernière, on nous dit ouais, il y a eu moins de déficit commercial. Effectivement, on a eu presque 70 milliards d'euros. On présente ça comme un exploit. C'est quand même 70 milliards de déficit commercial.
Et
Mais
non.
n'oublions pas. Alors, on vous dit oui, au quatrième trimestre, il y a eu justement un rebond il y a eu un excédent commercial de 5 milliards pour les biens et services, selon les chiffres des comptes nationaux. Mais quand on regarde les chiffres de la balance courante, là, on a un excédent de 500 millions. Et quand on regarde la balance commerciale, on a également un déficit de plus de 11 milliards. Donc, ça colle pas, vous voyez. Il y a quand même des dérapages. Donc, autre élément sur le déficit extérieur, c'est la première fois qu'on a un déficit de la balance commerciale de l'agriculture. Alors que la France, c'est un pays exportateur net de produits agricoles. Là, on a plus importé qu'exporté de produits agricoles. Donc, voilà où en est aujourd'hui la France. Donc, évidemment, ça ne va pas arranger la situation, je dirais, en 2026. Mais vous l'avez évoqué, je pense que la clé, c'est le chômage. Et là, c'est vrai qu'on a eu les chiffres du chômage, justement, du quatrième trimestre 2025 de l'INSEE. C'est des chiffres complètement fous, complètement dramatiques. D'ailleurs, qui sont un petit peu masqués, là aussi. On n'en parle pas trop, on ne veut pas trop en parler parce que c'est vraiment très grave. On a eu donc un taux de chômage qui est monté à 7,9% donc au quatrième trimestre 2025. Donc, ça veut dire à peu près 0,6 points de hausse sur une année. C'est la plus forte hausse depuis 2013,
Ah
hors
oui,
période Covid.
ça
Non,
fait.
eh oui! Ce n'est pas rien. Et encore là, on parle du taux de chômage de catégorie A. Vous savez, catégorie A, ça veut dire les chômeurs, entre guillemets, labellisés.
C'est
C'est-à-dire
ça.
ceux qui sont immédiatement disponibles, qui n'ont pas du tout travaillé, et qui font une recherche active d'emploi et qui en font la preuve. Tous les autres, on ne les met pas dans les statistiques. Mais si on regarde justement ce qu'on appelle le taux de sous-emploi avec tous ces chômeurs, là, c'est beaucoup plus. On est à 16,9% de taux de chômage. Ça veut dire à près 5,6 millions de personnes. Donc, c'est évidemment, c'est ça le drame. Donc, quand on dit aux Français, non, mais ça va, c'est pas si grave que ça, C'est quasiment 6 millions de personnes et leurs familles, évidemment, ne comprennent pas ce décalage entre ce qu'on affiche et puis la réalité. Alors, encore plus grave, le chômage des jeunes. Chômage des jeunes, rendez-vous compte, 21,5% au quatrième trimestre 2025. Et là aussi, c'est énorme. Et surtout, rappelez-vous, toutes les aides qu'on a données, on a dit aux jeunes, alors voilà, faites des formations, faites des bacs plus 5, bacs plus 10, histoire de ne pas rentrer sur le marché du travail, avec zéro débouché à l'issue de cela. Et on a maintenant un taux de chômage énorme. Donc pendant quelques temps, justement, on a masqué un petit peu ce taux de chômage. Et là, on voit ce taux de chômage qui a explosé. Et donc, 21,5%, ça fait, écoutez bien, cette hausse sur un an, plus 2,8 points sur un an. Et même avec le Covid, on n'a jamais vu ça depuis le premier trimestre 2013. Vous vous rendez compte dans quel état sont nos jeunes aujourd'hui? Et on nous dit que tout va bien. Donc moi, je lutte contre ça. Je pense que c'est un combat, parce que je ne dis pas ça de gaieté de cœur. Je pense qu'il faut dire la vérité aux Français,
qu'on
puisse prendre les bonnes décisions. Le problème, c'est que quand on n'a pas arrêté de faire du déni de réalité, de mentir aux Français, rappelez-vous, hein, c'était justement, il y avait deux totems hein, de l'ère Macron. C'était la réforme des retraites, donc qui a été battue en brèche, comme vous le savez, avec le budget 2026, et le plein emploi. Vous voyez, c'est bon, la France, et on a retrouvé le plein emploi. Là, on voit le chômage, on est à 7,9%, surtout les jeunes, 21,5%. Et surtout, parce qu'il faut bien regarder, c'est ce qui se passe dans les autres pays européens. Parce que quand nous, on a 7,9% de taux de chômage, au même moment, dans la zone euro, il y a 6,2% de taux de chômage. Alors que jusqu'en 2015, on avait le même taux de chômage entre la France et la zone euro. Chômage des jeunes, 21,5% donc pour la France. Dans la zone euro, 14,2%. Vous rendez compte l'écart? C'est énorme. Donc, il y a bien un problème français. Alors, le pire pour les entreprises qui nous écoutent, parce que je les conseille, j'en conseille beaucoup. Moi, les chefs d'entreprise me disent, attendez, on a un problème. On a parfois donc des carnets de commandes, on a du boulot, mais il n'y a pas la main-d'œuvre en face. Donc, c'est ça le paradoxe. On a un chômage énorme, mais il y a parfois des pénuries de main-d'œuvre parce qu'effectivement, on n'a pas les bonnes formations, tout simplement. Et donc, on a mis des jeunes, justement, dans des voies de garage pour avoir des bacs plus 5 en histoire de l'art ou ce que vous voulez. Donc, moi, j'aime beaucoup l'histoire de l'art, c'est très bien. Hein. Par contre, les débouchés, ensuite, dans l'industrie, par exemple, ils sont limités. Donc, quand on vous dit on va réindustrialiser le pays, mais on ne fait pas d'efforts, justement, sur les formations dans l'industrie, et ça ne va pas se faire en 5 minutes. Donc, vous voyez, ça reste du marketing. Donc, il faut sortir de l'ère du marketing et il faut dire aujourd'hui la vérité aux Français. C'est ce que je fais, ce que nous faisons ensemble. Et je pense qu'encore une fois, ce n'est pas pour faire peur. C'est qu'une fois qu'on a dit la vérité, on peut réagir en conséquence.
Bien sûr. La dette publique française continue de déraper, Jean-Marc, et vous comparez la situation à celle de la Grèce, avec les intérêts qui pourraient atteindre 70 milliards d'euros en 2026. Risquons-nous une crise sociale ou même une révolution, comme vous l'avez évoqué?
Bah oui, moi je pense que malheureusement, voilà, même j'ai intitulé la vidéo YouTube de la semaine la fin du film, parce qu'effectivement là ça y est, on tire sur la corde depuis des années, va finir par se casser, parce que quand on voit que la dette publique française depuis 2020 a augmenté de 1000 milliards d'euros, depuis 2017 de 1300 milliards d'euros, ça me complètement folle. Et surtout la guerre, si vous augmentez votre dette et qu'en échange, il y a plus de croissance, vous pouvez dire, bon, au diable avarice, voilà. Et ce n'était même pas le cas. Quand on a augmenté la dette de 1 000 milliards d'euros, le PIB français a augmenté de près 500 milliards. Il y a moins de 500 milliards même. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 650 milliards d'euros d'écart entre l'augmentation de la dette et l'augmentation de la richesse. Donc, ça ne colle pas. Où est l'argent? L'argent a disparu, l'argent a été gaspillé, comprenez? Et cet argent, c'est de l'argent des Français, ce sont nos impôts. Quand la dette augmente, il va falloir la payer, au moins les intérêts, et donc justement, c'est les Français qui payent. Et quand on dit, par exemple, ça, c'est malheureusement, encore aujourd'hui, les économistes disent ça, c'est quand même assez incroyable. Ils nous disent, non mais la dette, c'est pas grave, ça coûte rien, hein, parce que finalement, on la fait rouler, tout va bien, ça va bien passer, etc. Mais c'est quand même assez incroyable d'entendre ça. Vous l'avez dit, cette année, la charge d'intérêt de la dette, donc juste les intérêts de la dette, ça va atteindre 70 milliards d'euros. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, 70 milliards d'euros. Et quand on regarde sur 15 ans, donc de 2015 à 2030, avec les prévisions de Bercy, c'est-à-dire très optimistes, ça va coûter au total 1 000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, sur 15 ans, on a payé 1 000 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette. Vous vous rendez compte ce qu'on fait avec 1 000 milliards d'euros, les hôpitaux qu'on peut construire, les soutiens qu'on peut administrer à l'économie, au social. Donc c'est ça qui colle plus. Et alors le pire, c'est que malgré tout cela, on voit que les services sociaux et les services publics au sens large se sont délétères, hein, sont de moins en moins bons. Donc ça veut bien dire que l'argent est là, mais il ne va pas où il faut. Il va dans les frais de fonctionnement notamment, mais il ne va pas dans la réalité des Français du quotidien. Après, il va dire il faut arrêter les gaspillages. Là aussi, il faut regarder où va l'argent à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue des dépenses de fonctionnement, comme je l'évoquais, mais également des dépenses sociales, parce qu'il y a des fraudes sociales, etc. Donc voilà, ça aussi, c'est vrai qu'on ne peut pas, malheureusement, c'est vrai que quand la France était encore un pays riche, on pouvait accueillir toute la misère du monde. Maintenant, malheureusement, ce n'est plus le cas, on n'a plus les moyens. Et donc, il faut aujourd'hui sauver l'économie française, sinon, je pense que malheureusement, on va avoir une crise sociétale, voire pire, dramatique. Parce que la clé, si vous voulez, c'est l'emploi, c'est le chômage. Tant qu'on tenait le chômage, il y avait des aides, voilà, etc., on arrivait à maintenir le taux de chômage autour des 7,2%, 7,3%.
Mais là, c'est une autre histoire, là, oui.
Et là, maintenant, le taux de chômage va bientôt dépasser les 8%. Et je pense que si on regarde, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chefs d'entreprise interrogés par l'INSEE qui nous donnent les perspectives d'emploi. Et quand on regarde la corrélation entre les perspectives d'emploi et le taux de chômage, ils nous disent que le taux de chômage pourrait atteindre 9% d'ici la fin 2026. Alors là, évidemment, ça ne pourra plus fonctionner parce que les ménages qui ont déjà des problèmes de pouvoir d'achat, si en plus le chômage augmente, plus du surendettement à cause de la hausse des taux d'intérêt, etc., comment ça va se terminer? Et puis surtout, les politiques qui nous disent « Mais attendez, tout va bien, hein, arrêtez, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. » Non, ça c'est dans Candide de Voltaire, mais dans la réalité, on n'en est pas du tout là malheureusement, et c'est ça qui aujourd'hui nous coûte très cher.
Non, et vous le rappelez très bien d'ailleurs sur votre chaîne YouTube, entre autres.
Vous affirmez également chez vous, voyez, je le fais, hein, malgré tout.
Mais bon, j'insistais sur votre chaîne YouTube quand même. Vous affirmez.
C'est gentil, merci beaucoup. Merci
je vous
beaucoup.
En prie. Vous affirmez d'ailleurs aussi que les impôts et les dépenses publiques augmenteront de 30 à 40 milliards d'euros en 2026 malgré les discours officiels. Hein. Donc, comment le gouvernement peut-il encore nier cela et quels conseils donnez-vous aux contribuables pour s'y préparer?
Malheureusement, je pense que le gouvernement, il ne nie même plus. Enfin, il fait du marketing en disant non, mais ça n'augmente pas, c'est que les 300 grandes entreprises qui sont concernées. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, non, tout le monde est concerné. Mais dans les chiffres, parce que pour tout vous dire, habituellement, quand il y a un budget, on a les chiffres, on a le chiffrage macroéconomique avec le niveau des dépenses, le niveau des recettes. Et là, on n'avait pas. On n'a rien eu jusqu'au jour du vote. Parce que je veux dire, et donc même là, moi, j'avais du mal à trouver les chiffres. Donc, j'ai réussi par des moyens détournés à les avoir. Il y a une sorte d'omerta, justement, sur ces chiffres. C'est qui est quand même assez incroyable, vous voyez. Donc, maintenant, on ne peut plus mentir. Mais ça y est, on a noyé le poisson. On dit, bon, le budget est passé, donc on n'en parle plus. Mais c'est une réalité. Les impôts vont augmenter. Et surtout, le problème, c'est que ça va casser l'activité économique. Mais ça aussi, c'est un drame. C'est ce qu'on apprend aux étudiants d'économie en première année d'économie. Moi, j'ai été prof à la fac et pendant des années. C'est vrai, globalement, si vous augmentez les impôts, surtout nous, les Français, nous sommes numéro un du monde des impôts. Donc, si on augmente encore, effectivement, la pression fiscale, vous cassez l'activité économique. Donc, vous réduisez ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Donc, vous ponctionnez plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, à la fin, évidemment, il y a moins d'activité. Et moi, je vois tous les jours aujourd'hui des chefs d'entreprise qui me disent « je mets la clé sous la porte ». Je pars, on m'envoie des messages, je m'en suis sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, en disant « mais j'arrête, non pas que j'ai pas d'activité, mais je peux plus ». Et entre tous les contrôles que nous avons, tous les impôts que nous payons, et puis on ne sait même pas comment sont utilisés les impôts, quel est l'intérêt? Oui, non. Faire attention à ce qu'on appelle le consentement à l'impôt.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on est tous prêts à payer des impôts et c'est plutôt bon signe quand on paye des impôts, ça veut dire qu'on a gagné de l'argent. Mais surtout, ça veut dire qu'on veut que ces impôts soient bien utilisés. Si les impôts sont mal utilisés, on se dit, non, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, il y a un devoir de transparence, le dirigeant français, qui n'est absolument pas fait. On fait encore une fois du marketing, mais dans la réalité, finalement, on ne dit pas aux Français comment est utilisé vraiment leur argent. Tous ces gaspillages qui sont évidemment dramatiques. Et ça, je pense que ça ne peut plus durer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir évidemment la réalité économique. Et donc voilà, on est à la fin du film, on le voit bien. Hein, donc encore une fois, sachant que même le président, le premier ministre, voilà, ils essayent de tenir jusqu'en 2027. Mais ils sont en train de changer des personnes à la tête, voilà, à la Banque de France, à la Cour des comptes, on met les copains, les
amis. Ouais.
C'est très bizarre quand même. Alors tout le monde l'a fait, hein, évidemment, le copinage, c'est vieux, j'ai envie comme la politique française, hein, ou même voire mondiale, hein, tout le monde le fait, bien entendu, mais ça se voit trop, là, vous voyez ce que je veux dire, notamment quand on voit la démission, ça m'a un petit peu choqué, parce que la démission du gouverneur de la Banque de France, alors qu'il devait partir donc en 2027, donc on me dit, oui, alors c'est pour justement que si jamais il y a un changement de majorité en 2027, il soit là pour sauver la Banque de France, comme si la Banque de France avait un danger, vous voyez ce que je veux dire, mais toujours est-il que c'est 2027? Pourquoi on le fait maintenant? On est en 2026, on est en février 2026. Pourquoi le fait-on si tôt? comprenez, donc quelque chose qui me dérange. Je sais pas trop, mais c'est bizarre. Donc voilà, moi je suis inquiet parce que encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes qui sont dans leur bulle, beaucoup de politiques sont dans leur bulle. Bon, ok. Moi je suis sur le terrain, c'est-à-dire je vois les chefs d'entreprise, je vois les particuliers, etc. Quand je fais des conférences partout en France et j'observe ces craintes, voire parfois cette haine vis-à-vis des dirigeants. Et ça c'est quand même très très dangereux. C'est-à-dire que comment ça peut se terminer? Moi, nous encore une fois, on ne le dit pas assez. La France, c'est un pays qui est formidable, qui est exceptionnel. Donc c'est ça qui est gênant, c'est du gâchis. Si d'ailleurs tout allait, on avait un pays catastrophique déjà à la base, on dit bon bah c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Non, on a un pays qui est formidable. On est en train de le gâcher. On voit nos entreprises sont en train de partir. Et bien sûr les grandes, elles sont déjà parties à longtemps. Et quand je vois les défaillances d'entreprises, vous voyez que alors on me dit oui mais les faillites d'entreprises, il y a eu beaucoup de créations d'entreprises. OK, il y a eu 1 million de créations d'entreprises l'année dernière à peu près, un peu plus. On a à peu près 7 millions d'entreprises en France, c'est bien. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que 96% de ces entreprises sont des micro-entreprises. Elles ont entre 0 et 1 salarié. 98% de ces entreprises ont moins de 2 salariés. Par contre, ces créations ne veulent rien dire. C'est pourquoi, quand je parle des défaillances d'entreprises, hein, je suis de la Banque de France, justement, je regarde les défaillances d'entreprises hors micro-entreprises. Et là, tenez-vous bien, les chiffres sont incroyables. Depuis 2017, les défaillances d'entreprises, donc hors micro-entreprises, ont augmenté de 100%. Par rapport au sommet de la récession de 2009, on est à 14,5% au-dessus. Donc, c'est un drame, parce que même s'il y a eu des créations, ces entreprises qui disparaissent, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben derrière, il y a des salariés. Derrière, évidemment, il y a des salariés qui vont se retrouver au chômage. Donc, le chômage va encore augmenter. Donc, vous voyez, c'est ça qui est très dangereux. Et donc, c'est ce que, pour changer tout ça, moi, c'est ce que j'appelle de mieux, parce qu'on me dit, oui, alors, c'est quoi vos propositions? J'en ai énormément, bien entendu, ce que j'appelle la thérapie de choc bienveillante. Alors, elle est notamment dans pas mal de mes vidéos, j'en parle dans beaucoup de médias, également dans mes livres. C'est-à-dire, cette thérapie de choc bienveillante, ça veut dire, ben, il faut d'abord baisser les impôts pour tous, les entreprises, les ménages, baisser également les dépenses publiques, notamment de fonctionnement, réduire le coût du travail, là aussi, pour augmenter les salaires nets, créer des fonds d'investissement, justement, qui vont et financer l'investissement et financer nos retraites, là aussi. Voilà. Les recettes, elles existent. Tous les pays, tous nos voisins ont fait ces recettes, ont pratiqué ces recettes et ça a marché. Vous voyez, quand on voit le Portugal, l'Italie, même la Grèce. Sans parler de l'Argentine, évidemment, mais bon, ça c'est plus loin. Mais bon, ben, tous ces pays-là, ils ont dit, oh, non, mais stop, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut arrêter. Il faut baisser les impôts, il faut baisser les dépenses publiques, il faut fluidifier l'économie. Et ça a marché. Il n'y a que nous, évidemment, en France, comme on est extrêmement dogmatique, on se dit non, nous on va y arriver. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'on l'a vu là, dernièrement, c'est que M. Macron nous dit ah ben il faut peut-être maintenant mutualiser la dette. Voilà. Oui, bon, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, comme on a compris que les marchés bientôt vont arrêter de nous prêter aussi facilement, on se dit bon, on va faire une dette européenne et puis on va prendre part sur cette dette européenne. Attention, ça peut être un signal d'explosion de la zone euro. Ça peut être très dangereux parce que beaucoup de pays ne sont pas d'accord, notamment l'Allemagne, notamment l'Italie. Donc, ça va être compliqué. Hein. Ça, c'est le problème de la France qui, depuis des années, n'a pas arrêté de ne pas respecter les règles européennes. Mmh. Vous savez, la dernière fois que la France a respecté le critère de dette publique sur PIB, donc c'est-à-dire moins de 60% de dette par rapport au PIB, la dernière fois, c'était quand? Oula. En 2002. Vous vous rendez compte? On est en 2026. Voilà. Alors, quand après, évidemment, la France dit avec ses gros sabots, « Ouais, vous inquiétez pas, on va vous apprendre comment ça marche », évidemment, ça colle pas. Et donc, on n'est plus prêt à prêter aussi facilement à la France.
Marc, il nous reste 1 minute 30. Emmanuel Macron, vous en parliez, alerte sur une crise politique et économique hein, en Europe face à la concurrence américaine et chinoise. Pensez-vous, pour terminer, qu'un crash soit imminent pour la France, l'Europe et les États-Unis? Et quelles solutions proposez-vous pour éviter, on va dire, l'apocalypse en 2026?
Bon, j'espère qu'on l'évitera, bien entendu. Alors évidemment, il y a des données qu'on ne maîtrise pas, notamment géopolitique, avec ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, en Iran, etc. Donc bon, et ça peut être aussi dans le bon sens du terme. On peut avoir une paix mondiale demain, et donc là, on en profitera tous, évidemment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut sauver la France, sauver le soldat France, sachant que notamment, malheureusement, il n'y a pas d'activité économique dynamique. On a des entreprises qui font faillite, qui disparaissent, le chômage qui augmente, donc je l'évoquais, les moyens, ils existent, baissons les impôts pour tous, baissons la dépense publique, baissons le coût du travail, donc en baissant les charges, en augmentant les salaires nets, créons des fonds d'investissement pour financer l'investissement et la retraite. Voilà, Et puis, bien sûr, il faut développer la culture économique des Français, parce que quand j'entends certains politiques ou même économistes dire « Non, non, mais on peut continuer comme ça, on va augmenter la dette et tout ira bien », c'est ça qui nous fait mal. Toutes ces personnes-là qui nous font extrêmement mal, qui sont en train de plonger la France, malheureusement, dans l'abîme. Mais bon, l'espoir, c'est qu'une fois qu'on aura touché le fond de la piscine, en fait, on l'a touché il y a longtemps, le fond de la piscine, mais oui, là, on creuse, si vous voulez. Hein. Donc, une fois qu'on ne pourra plus creuser, ben là, on sera obligé de remonter. Donc, c'est imminent. Voilà, c'est pour quand ? C'est imminent. Ça sera, je pense, cette année en 2026, pour pouvoir rebondir, espérons-le, en 2027-2028. Voilà, il faut s'armer de patience. Et voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, tant que nos dirigeants veulent rien faire, ben, on est bloqué. Donc, il faut attendre que, justement, on arrive à pouvoir sortir par le haut de cette crise, c'est encore possible.
Eh bien, cher Marc Toati, ce sera le mot de la fin, malheureusement. Hein, je rappelle que vous êtes donc économiste, conseiller économique Itoro, président d'ACDFI, et puis je le rappelle aussi, hein, auteur de 8 best-sellers, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Il faut que j'en écrive un nouveau, mais j'ai pas le temps, parce qu'en fait, avec la chaîne YouTube, ça prend beaucoup de temps,
oui,
et puis beaucoup
de
conférences. Et puis parallèlement, bon, c'est vrai que ça bouge tellement que je réécris quelque chose, et puis quelques semaines plus tard, il y a autre chose qui se passe. Donc c'est compliqué d'écrire un livre aujourd'hui, mais voilà. Merci en tout cas à vous toutes et vous tous pour votre fidélité.
Mais je vous en prie, et puis je rappelle donc votre chaîne YouTube pour ceux qui ne... s'ils n'ont pas encore rendu, Marc Toati TV. Donc encore merci, j'espère vous avoir sur le... Bah écoutez, en présentiel, bientôt.
Avec plaisir. Si je peux, avec plaisir.
Eh bien, écoutez, à très vite. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.